Chapitre 11. Pouvez-vous ouvrir un peu plus la bouche, s'il vous plaît, monsieur ? Une jeune femme aux manières abruptes était penchée au-dessus de lui pour lui insérer un bâtonnet en plastique dans la bouche, et, alors que ça aurait dû être une sensation intrusive et désagréable, Théo eut la déception de constater qu'il trouvait l'expérience excitante. Il ferma les yeux, ce qui ne fit qu'amplifier la sensation. Pendant que l'agente prenait ses empreintes, il s'efforça d'éviter son regard, mais quand il le croisa finalement, il comprit qu'elle avait perçu quelque chose qui la mettait mal à l'aise, et il eut l'impression d'être une ordure. Il eut envie de lui dire « Je suis vraiment désolé, ce n'est pas moi ça, je ne suis pas ce genre de type, je suis l'homme d'une seule femme. » Toute sa vie, Théo n'avait aimé que Carla. Il y avait eu d'autres femmes avant, et quelques-unes depuis, mais l'écrivain n'avait pas le moindre doute. Carla était la seule et l'unique. Même s'il y avait plusieurs Carla. Oui, il semblait à Théo qu'au cours de leur existence commune, il avait connu de multiples Carla, qu'il les avait toutes aimées et qu'il continuerait de l'aimer au travers de chacune de ses futures incarnations. Bien sûr, il y avait aussi eu Ben. L'espace de ce bref et extraordinaire interlude, ses 3 ans et 47 jours de bonheur, mais à présent, il n'y avait plus que Carla. Carla et l'écriture. 15 ans plus tôt, quand Ben était mort, Théo était en pleine rédaction de son 3e roman. Il l'abandonna sans hésiter. Il ne pouvait pas supporter l'idée de relire des mots qu'il avait formulés pendant que Ben jouait dans le jardin ou chantonnait avec sa mère dans la cuisine. Pendant 1 an ou 2, il fut incapable d'écrire. D'ailleurs, il essaya à peine. Puis, quand il voulut vraiment s'y remettre, rien ne vint. Des mois. Des années durant, rien. Son cœur n'avait pas été brisé, il avait été détruit. Alors comment écrire? Et surtout pour écrire quoi? N'importe quoi, lui répondit son agent. Ça n'a pas d'importance, écris n'importe quoi. Il s'exécuta. Il raconta l'histoire d'un homme qui perd son enfant mais sauve sa femme, l'histoire d'un homme qui perd sa femme mais sauve son enfant, l'histoire d'un homme qui assassine sa belle-sœur. Tout était atrocement mauvais. « J'ai l'impression de m'arracher les cheveux, » dit-il à son agent. « Non, pire que ça, de m'arracher les ongles. » Sans son cœur, ce qu'il faisait ne valait pas un clou. C'était stérile, médiocre. Assis face à un écran vierge, terrifié, il se confia à son agent. « Et si la raison pour laquelle je suis incapable de travailler, c'est parce que l'homme qui a écrit ces livres n'existe plus ?» Pendant ce temps-là, Carla lui échappait peu à peu. À la fois présente et absente, un spectre dans leur maison, elle s'éclipsait quand il entrait dans une pièce, fermait les yeux quand il passait dans son champ de vision. Elle allait à ses cours de yoga et en revenait non pas détendue, mais troublée, en colère. Elle traversait la maison avec fracas pour rejoindre le jardin, où elle s'asseyait et se griffait les bras jusqu'au sang. Théo aurait voulu l'aider, mais il le comprit avec le recul. Ses tentatives étaient maladroites. Sa suggestion d'essayer de faire un autre enfant fut accueillie par une fureur sourde. Théo se mit à déserter de plus en plus le domicile conjugal. Il partait assister à des foires du livre, il donnait des conférences dans des universités lointaines. Il eut une aventure brève et décevante avec son attaché de presse, une femme bien plus jeune que lui. Carla finit par le quitter, mais ce départ manquait de conviction. Elle acheta une maison à 5 minutes de chez lui. Théo s'essaya à la non-fiction. Il tenta d'écrire sur le peu de crédit que la société accordait à la paternité. Il s'interrogea sur le bien fondé des mouvements de libération des femmes. Il réfléchit à un retour à des valeurs plus traditionnelles, pour ne pas dire sexistes. Il se haïssait. Et il était toujours incapable de trouver les mots pour décrire l'étendue de son chagrin, l'ampleur de sa colère. Sans son fils, sans sa femme, sans l'écriture, Théo n'avait plus rien. Après le départ de la police, Théo partit marcher. Il avait pris l'habitude de faire un petit tour du quartier vers cette heure-là, juste avant le déjeuner, pour s'empêcher de manger trop tôt. Il avait une fâcheuse tendance à grignoter. Dans le hall d'entrée, il attrapa son manteau et tendit machinalement la main vers la laisse du chien avant de retenir son geste, surpris. Ce n'était pas le geste en lui-même qui l'avait interpellé. Il n'était pas encore habitué à l'absence de Dixon et faisait souvent cette erreur. Mais le fait que la laisse n'était pas à sa place. Théo regarda autour de lui. Il ne la vit nulle part. La femme de ménage avait dû la déplacer, songea-t-il, sans toutefois comprendre pourquoi elle aurait fait une chose pareille. En temps normal, il se promenait le long du chemin de halage, mais comme celui-ci était encore barré par la police, il se dirigea vers le pont de Danbury Street. Là se tenait aussi un jeune homme en uniforme, un jeune à la peau irritée par le rasage, qui lui sourit en l'apercevant et agita la main avant de s'interrompre, embarrassé. Théo y vit une ouverture. « Les fouilles ne sont toujours pas terminées, hein ?» dit-il en s'approchant de l'agent. « Vous cherchez des indices ?» Le jeune homme rougit. « Oui, on cherche une arme, en fait. » « Bien sûr, commenta Théo. « L'arme. » « Eh bien... » Il parcourut le canal des yeux comme s'il allait soudain apercevoir le couteau depuis le pont. « Je vous laisse vous remettre au travail, alors. Bonne chance. À vous aussi. » répondit l'autre avant de rougir de plus belle. « Pardon ? Oh, c'était juste. Bonne chance pour vos bouquins, tout ça. Désolée, je... » »«
Non, pas de souci.
C'est que je suis un fan, voilà. Un grand fan de celle qui s'est enfuie. J'ai trouvé ça tellement intéressant, la manière dont vous avez tourné le truc, vous savez, en racontant l'histoire dans le passé, dans le futur, en nous laissant voir ce qui se passait dans la tête du tueur. C'était dingue ! Au début, on ne comprend pas trop ce qui se passe, et d'un seul coup, c'est... Waouh ! Génial ! J'ai adoré comment vous nous prenez à contre-pied, en jouant avec nos perceptions et nos a priori, tout ça.
Ah oui ! s'esclaffa Théo, faussement incrédule. Je croyais que tout le monde pensait que c'était nul, comme idée.
Eh bien, pas moi. J'ai trouvé ça malin. Une nouvelle façon de raconter ce genre d'histoire. Vous comptez écrire un autre roman policier ? Un autre Caroline McFarlane,
ajouta-t-il en mimant des guillemets avec les doigts.
Je ne sais pas. J'y pense, bien sûr. Je pourrais m'inspirer de tout ce pataquès, après tout.
Ajouta l'écrivain en désignant le canal.
Je pourrais appeler ça le garçon du bateau.
Et ils rirent, un peu mal à l'aise.
C'est de là que vous viennent vos idées, alors ? Demanda le policier. De la vraie vie ?
Ah, une grande question. Commenta Théo, et il se tut dans l'espoir que l'autre n'attende pas réellement de réponse. Après un silence gêné, le jeune homme reprit.
« Parce que, vous voyez, si vous voulez un jour, je ne sais pas, discuter d'idées pour des romans policiers, parler des volets d'une enquête ou des analyses scientifiques, ce genre de choses... »
Théo se rendit compte que c'était à lui qu'il s'adressait et qu'il ferait peut-être bien d'écouter.
« Eh bien, je pourrais vous aider, par exemple... »
« C'est très gentil à vous, » dit Théo avec un grand sourire. « Une belle proposition, je...
Eh bien, pour le moment, j'imagine que ce qui m'intéresse, c'est surtout de savoir comment progresse l'enquête actuelle. Sur cette affaire, celle de mon... de mon neveu. »
Le policier fit la moue, et Théo esquissa aussitôt un pas en arrière, les mains en l'air, les doigts écartés.
« Je comprends que vous ne pouvez pas entrer dans les détails, hein ?» Je me demandais simplement, parce que, comme vous vous en doutez, cette histoire est très éprouvante pour nous, surtout pour Carla, mon épouse, qui a déjà eu à traverser tant d'épreuves ces derniers temps. Si la police approchait d'une résolution quelconque, d'une arrestation, ce serait un grand soulagement pour nous deux.
L'agent prit une inspiration entre ses dents et inclina la tête.
Eh bien, comme vous l'avez dit, je ne peux pas entrer dans les détails.
Théo hocha la tête, compréhensif, et arbora un air chagriné. Il sortit de sa poche un paquet de cigarettes, en proposa une à son interlocuteur, qui accepta.
« Ce que je peux vous dire, en tout cas, » reprit le policier en se penchant vers l'écrivain pour allumer sa cigarette, « c'est qu'on est en train de faire des analyses en ce moment même. Je ne vous apprends rien en vous disant que ces choses-là prennent du temps. On n'a pas les résultats du jour au lendemain. On n'est pas dans les experts ou je ne sais quoi. »
« Des analyses ?» répéta Théo.
« Oui, » répondit l'autre, qui reprit plus bas. « Des analyses sur des vêtements tachés de sang. »
Ah ! Voilà qui était rassurant. Et ses vêtements, poursuivit Théo. Ils appartiennent à la fille, celle que vous avez interrogée. Parce que, vous savez, je l'ai vue fuyant la scène du crime ce matin-là. Je l'ai vue et je n'ai rien fait. Bêtement, j'ai cru que c'était juste une fille qui avait bu un coup de trop. Quel idiot.
L'agent affecta aussitôt une expression soucieuse.
Monsieur Meyerson, vous n'auriez rien pu faire de plus, je vous assure. Personne n'aurait rien pu faire pour Monsieur Sutherland. Ses blessures étaient bien trop graves.
Oui, bien sûr, acquiesça Théo.
Mais pour en revenir à cette fille, c'est votre suspecte principale pour le moment? Il n'y a pas, je ne sais pas, une histoire de drogue ou de cambriolage ou...
L'homme secoua tristement la tête.
Là, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus. Mais nous n'éliminons encore aucune piste.
Évidemment, appuya Théo, tout en songeant que « nous n'éliminons encore aucune piste » signifiait, en réalité, « nous n'avons pas la moindre idée de ce qui s'est passé ». Il fit mine de s'éloigner, mais vit du coin de l'œil que le jeune policier boutonneux mourait d'envie de lui fournir d'autres informations. N'importe quoi qui prouve qu'il était quelqu'un d'important, lui aussi. Alors Théo demanda
« Est-ce que vous pouvez me dire quoi que ce soit sur elle, cette fille ?» Pas son nom, bien sûr, mais je me demandais. Vous voyez, j'ai cru comprendre qu'elle était du coin. J'ai lu dans le journal qu'elle habitait le quartier et, comme elle est en liberté et que, bien sûr, j'ai une petite notoriété qui fait qu'elle pourrait sans mal découvrir qui je suis ou qui est ma femme. Et en fait, je suis peut-être un peu parano, mais ce que je voudrais savoir, c'est si elle est dangereuse, cette personne. Enfin, bien sûr qu'elle est dangereuse, mais est-ce qu'elle représente une menace pour moi, pour nous ?
Le jeune agent était à l'évidence très mal à l'aise face à la tournure que prenait la conversation, et à la fois très désireux de transmettre des informations top secret. Il finit par se pencher vers Théo.
« Elle a des antécédents, » murmura-t-il.
« Des antécédents ?»«
De violence. »
Théo recula, horrifié.
« Mais il n'y a aucune raison de paniquer. Elle est simplement instable, voilà tout. C'est tout ce que je peux vous dire. En tout cas, je tiens à vous rassurer. Nous allons à nouveau draguer le canal cet après-midi. Nous sommes encore à la recherche de l'arme, mais dès qu'on aura mis la main dessus, ce sera terminé. Dès qu'on l'aura, on pourra passer à l'arrestation. »
De retour à son bureau, plutôt rasséréné, Théo se mit à trier son courrier, dans lequel se trouvaient quelques lettres de lecteurs transmises par son agent. À une époque, il en recevait des dizaines par jour, et c'était un des sous-fifres de son agent qui s'en occupait, mais au fil des années, le flot s'était tari. Il se tenait éloigné des réseaux sociaux et ne répondait pas aux emails, mais si quelqu'un prenait la peine de lui envoyer un courrier manuscrit, il avait tendance à répondre personnellement.
« Cher Monsieur Meyerson, Mademoiselle McFarlane, j'espère que ça ne vous embête pas que je vous écrive. Je suis un grand fan de votre roman policier, Celle qui s'est enfuie. Et je me demandais où vous trouviez toutes vos idées. »
Théo laissa échapper un grognement d'exaspération. Bon Dieu, les idées étaient-elles donc si rares? Les transformer en mots, les coucher sur du papier, c'était autre chose. Mais les idées, on en trouvait à l'appel, non? Plus particulièrement, d'où vous est venue l'idée pour ce livre? D'un article de journal? D'échanges avec la police? J'envisage moi-même d'écrire un roman policier et j'aime bien lire des rapports de police sur Internet. Est-ce que vous demandez parfois à des inspecteurs de vous aider avec votre intrigue, avec des crimes précis, ou à trouver des solutions? Je me demandais aussi pourquoi les personnages n'ont pas de nom dans « Celle qui s'est enfuie ». C'est plutôt inhabituel, non? Pourriez-vous me répondre par email? Je suis impatient de lire vos réponses à mes questions. Bien cordialement, Henri Carter, henricarter759@gmail.com. PS, je ne suis pas d'accord avec les critiques qui ont trouvé le livre misogyne et prétentieux. Je pense qu'ils n'ont pas bien compris l'histoire. Le post-scriptum fit rire Théo, qui déposa la missive dans sa corbeille à courrier en se promettant d'y répondre le lendemain. Il se leva, se pencha par-dessus son bureau pour attraper ses cigarettes et... À cet instant, il leva la tête. Par la fenêtre, il vit alors sur le chemin de halage, derrière le jardin, une silhouette immobile qui le regardait droit dans les yeux. Myriam Lewis.
« Bon Dieu !»
Il fit un bond en arrière
et manqua basculer par-dessus sa chaise de bureau. Avec un juron, il dévala l'escalier, se précipita dans le jardin et ouvrit brutalement le portail de derrière pour regarder tout autour de lui. Elle avait disparu. Théo arpenta quelques minutes le chemin de halage, les poings serrés. Les passants qu'il croisait l'évitaient en lui jetant des coups d'œil nerveux. Est-ce qu'elle s'était vraiment tenue devant son jardin? Ou se mettait-il à avoir des hallucinations? En était-il arrivé là? Sans sa femme, sans son fils, sans l'écriture, Théo n'avait plus rien. Par désespoir, il écrivit un roman policier sur une idée de son agent. « Quand je te dis d'écrire n'importe quoi, je suis sérieux », avait expliqué celui-ci. « N'importe quoi, juste le temps de te remettre dans le bain. Essai, la science-fiction, les romans d'amour, ce que tu veux. Si tu savais le nombre de bouses qui se publient dans l'édition grand public, on te trouvera un nom de plume si ça te rassure. Mais il faut que tu écrives quelque chose. » Il s'exécuta. Il s'estima inapte aux romans d'amour et pas assez réfléchi pour la science-fiction. Mais le policier, ça, il s'en sentait capable. Il adorait la série Inspecteur Morse. Il avait lu Dostoïevski. Ça ne pouvait pas être bien difficile, si? Tout ce qu'il lui fallait, c'était un concept, la bonne accroche, et c'était parti. C'est alors que l'idée vint à lui. Elle atterrit sur son perron, et il s'en empara pour la développer, la travailler, la façonner, jusqu'à en faire une œuvre à proprement parler. Publiée sous le pseudonyme Caroline McFarlane, Celle qui s'est enfuie était un roman hautement expérimental. L'intrigue s'affranchissait de la chronologie et le point de vue pivotait parfois à 180 degrés pour révéler au lecteur les pensées les plus intimes du tueur. C'était un livre qui dénonçait la façon dont on pouvait manipuler la sympathie du lecteur, qui montrait la hâte avec laquelle celui-ci pouvait tirer des conclusions sur la culpabilité et l'innocence. Le pouvoir et la responsabilité. Le livre ne fut pas tout de suite un grand succès. Bien que Théo eût pris soin de camoufler son identité en choisissant un nom de femme, « les femmes adorent les policiers », avait argué son agent. « C'est la catharsis de se voir en position de victime qui leur plaît. » Le secret n'avait pas tenu bien longtemps. Quelqu'un vendit la mèche et, évidemment, le roman devint un best-seller. Revers de la médaille, les critiques se penchèrent sur le texte avec férocité. Il reçut quelques avis particulièrement cruels, et toutes sortes de tarés firent leur apparition. « Vous m'avez volé mon histoire !» Cependant, le but premier était atteint. Théo avait recommencé à écrire. Et c'était ça, l'essentiel. Quand la muse s'était tue, Théo avait refusé d'abandonner, il avait saisi une bribe d'histoire et l'avait faite sienne. C'était ça, la vérité.